se créer une véritable coalition contre le groupe État islamique. Est-ce une ambition réalisable? François Hollande, on le sait, est à mi-chemin dans son véritable marathon diplomatique pour tenter de la concrétiser. Après David Cameron, Barack Obama et Angela Merkel, c'est à Moscou qu'il va se rendre demain. La Russie qui s'est singulièrement crispée hier après que la Turquie a abattu un de ses avions qui aurait violé son espace aérien. Alors plutôt que de songer à une coalition, ne faudrait-il pas au mieux se contenter d'une coopération opérationnelle dans la lutte contre le groupe État islamique? On pose la question à notre invité Claude Smadja. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes expert en relations internationales, président du cabinet Smadja et Smadja. La France touchée de plein fouet par les attentats, qui est en guerre, ce sont les termes du président. Est-ce qu'elle est d'autant plus légitime, et je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas d'autant plus capable d'arriver à créer une coalition contre le groupe État islamique? Qu'en pensez-vous?
Bien, je crois que les attentats de Paris ont été un réveil brutal, mais nécessaire, pour ramener l'Église au milieu du village. À savoir quoi? La véritable menace pour les pays occidentaux, et de même que pour la Russie, ça n'est pas Bachar el-Assad, quelle que soit la conduite odieuse de ce dictateur, la menace immédiate et réelle, c'est l'État islamique.
Ce n'est pas ce qu'affirmait la France il y a encore 2 semaines ou 3 semaines.
Oui. Bien justement, ils se sont réveillés de leurs illusions, et puis maintenant on est entré enfin dans la réalité. Et donc si on admet les priorités numéro 1, c'est-à-dire la lutte contre l'État islamique, cela signifie qu'on doit en tirer les conséquences, et les conséquences, cela signifie que l'on appelle ça une coopération opérationnelle ou une coalition, cela signifie la mise en place d'un système de coopération militaire, d'échange d'informations et de coordination des attaques entre les Européens, les Américains, et les Russes.
Qu'on s'entende bien sur les termes, Claude Smadja, moi je vois quand même une différence entre coopération, logistique et coalition. C'est pas tout à fait la même chose, c'est quand même une étape supplémentaire, non?
Alors il faut d'abord passer par la coopération, et puis cette coopération signifie par la force des choses qu'on est unis sur les objectifs à atteindre. Et je crois que le problème...
On y arrivera, cette coopération? Le président Hollande y arrivera?
Eh bien, je crois que la réalité le force à y arriver. La question est de savoir si Monsieur Obama va sortir sa tête du sable dans laquelle il l'a enfui depuis quelque temps, et reconnaître que la Russie est un élément incontournable si on veut être véritablement opérationnel et efficace en luttant contre l'État islamique.
Alors, il y a cet événement survenu hier, la Turquie qui abat un avion de chasse, enfin un chasseur-bombardier russe qui aurait violé l'espace aérien turc, tout ça n'est pas encore très sûr. Est-ce que ça, c'est ce genre d'événement, crise diplomatique, Poutine qui accuse la Turquie de faire le jeu de Daesh, est-ce que ce genre d'événement est de nature à changer la donne?
Alors ça, c'est une tentative de sabotage de la part des Turcs. Tout simplement parce qu'il faut remettre encore une fois les choses dans leur perspective. Les Turcs ne veulent pas entendre parler d'une coordination, même d'une coordination, voire d'une coalition avec les Russes, parce que les Turcs, depuis le début, ne veulent pas changer de... Leur priorité, ce n'est pas l'État islamique, leur priorité, c'est qu'ils haïssent Bachar el-Assad, parce qu'ils estiment que Bachar el-Assad n'a pas suivi les orientations que la Turquie voulait qu'ils suivent, et donc les Turcs ont pour priorité l'élimination de Bachar el-Assad. Le deuxième point qui concerne la Turquie et ce qui s'est passé avec cet avion russe, c'est que les Russes qui soutiennent Bachar el-Assad bombardent les Turkmènes qui font partie des forces d'opposition à Bachar el-Assad, et donc le président turc a vu là une opportunité magnifique de semer le trouble et de saboter l'effort de François Hollande de créer un rapprochement avec la Russie, comme avec pour objectif l'élimination de l'État islamique.
La Turquie, membre de l'OTAN, là aussi c'est assez compliqué. Il y a des bases américaines, il y a des avions américains qui décollent de la Turquie. Est-ce que là, véritablement, les Américains ne sont pas impliqués de facto dans le jeu que joue la Turquie depuis hier?
Non, ils ne sont pas impliqués de facto, mais les Américains sont pris entre deux feux, puisque, comme vous l'avez dit, la Turquie est un membre de l'OTAN, et c'est un membre important de l'OTAN, et en même temps, la Turquie joue son propre jeu qui est contraire aux intérêts actuels des États-Unis et de l'Europe.
Mais ça veut dire que la Turquie va réussir à saboter le frémissement, le début de cette coalition cette semaine? Ça va aller jusqu'où, là, ce jeu diplomatique? Parce que là, encore une fois, le président Poutine accuse clairement la Russie de faire le jeu du groupe État islamique. Ça va aller jusqu'où, cette guerre diplomatique?
Ce qui est très clair, c'est que la Maison-Blanche et l'administration américaine, tout en disant que, bien sûr, la Turquie avait le droit de défendre son espace aérien et sa souveraineté, en même temps n'ont pas du tout adopté une position de va-t-en-guerre par rapport à l'incident qui s'est produit hier. Et de toute manière, on l'a bien vu lors de la dernière rencontre entre Obama et Poutine, Obama sait très bien que sa stratégie actuelle l'a conduit dans le mur. Elle n'aboutit pas à renverser Assad, elle n'aboutit pas à réduire la capacité de nuisance de l'État islamique. La question, c'est comment est-ce qu'il va pouvoir changer de position tout en gardant la face.
Klaus Maja, à quoi pourrait ressembler cette coalition, sans même parler, sans même parler de coalition? D'abord, la mise à disposition des renseignements des uns pour les autres, les Américains qui mettraient à disposition leurs renseignements, ça pour les Français, et par exemple, ce serait déjà une grande avancée?
Alors, je pense que cette coopération, elle peut avoir plusieurs volets. D'abord, comme vous l'avez dit, les échanges d'informations, et d'autre part, il ne faut pas oublier que si les Russes ont des troupes au sol, justement, pour pouvoir guider les tirs de l'aviation russe sur place, les Américains ont aussi décidé d'envoyer des forces spéciales
au
sol.
C'est quelques hommes, hein, on parle de quelques hommes.
Mais on parle de quelques hommes, mais qui peuvent contribuer grandement à l'efficacité des frappes aériennes. Ça, c'est le premier élément qui est important. Le deuxième élément qui est important, c'est que on doit pouvoir parvenir à un accord où on dit à Monsieur Poutine, laissons de côté pour l'instant la question de la survie de Bachar el-Assad, concentrons-nous sur l'élimination de l'État islamique, admettons que Bachar el-Assad fera partie, qu'on le veuille ou non, d'une solution de transition pour la Syrie, et on verra après. Parce que tout simplement, la réalité, elle est très simple, si Bachar el-Assad aujourd'hui disparaît, l'État islamique double son emprise sur le territoire syrien dans les 10 jours qui suivent. Si Bachar el-Assad disparaît, la coalition qui s'oppose à lui est tellement fragmentée qu'elle est totalement inefficace, et c'est le vide dans lequel s'engouffrera l'État islamique, et personne ne veut de cela.
On reviendra sur cette transition d'ailleurs via un article de la presse tout à l'heure. Je reviens juste sur cette question des troupes au sol. Vous dites il suffit de quelques forces spéciales, russes et peut-être américaines, qui sont d'ailleurs, selon certains, déjà sur le terrain. Il n'y a pas besoin de plus d'hommes.
Ah, il est clair que les forces spéciales, c'est pour rendre les frappes aériennes plus efficaces.
Parce que M. Hollande a déjà dit qu'il n'enverrait personne. Est-ce qu'on peut réussir comme ça sans envoyer personne?
Non, et ça, c'est la contradiction absolue dans laquelle les Européens, les Américains et les Russes se trouvent à l'heure actuelle. On peut, avec seulement des forces aériennes et quelques éléments d'appui au sol, réduire la capacité de nuisance de l'État islamique, mais l'élimination de l'État islamique est impossible sans l'engagement de troupes au sol, et justement, personne ne veut entendre parler de cela.
Donc on n'y arrivera pas.
Donc pour l'instant on n'y arrive pas, donc on est dans le contexte d'une guerre qui va être très sale et qui va se prolonger.
Il y a aussi la question des relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, notamment quand on voyait encore au mois de mai M. Hollande signer un contrat de 6,3 milliards d'euros pour vendre 24 Rafales au Qatar, et que ces mêmes Rafales sont ceux qui se trouvent sur le porte-avions Charles de Gaulle, enfin ce même modèle d'avion pour aller bombarder Daesh. Est-ce qu'on n'y voit pas un cynisme terrible de l'histoire là?
Il y a une ambiguïté fondamentale que l'on refuse de confronter concernant l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite est stable à l'heure actuelle à cause de l'accord qui date de 70 ou 80 ans entre la monarchie et le clergé wahhabite. Le clergé wahhabite, c'est quoi? C'est un des principaux instigateurs du salafisme. Et d'ailleurs, les imams qui prêchent des versions de l'islam absolument belligérantes et qui induisent des gens à commettre des attentats, dans bien des cas, sont financés par le clergé wahhabisme. Et la question qui se pose, c'est de savoir, en utilisant maintenant le fait que l'Iran est en train de rentrer dans le jeu international, de mettre une pression extrême sur l'Arabie Saoudite pour qu'elle cesse le double jeu qui consiste à vouloir garder à tout prix la stabilité sur son sol au prix d'une alliance avec ce clergé wahhabite qui est un facteur de menace potentielle par rapport à l'action que ce clergé wahhabite a dans la diffusion du salafisme au-delà des frontières de l'Arabie Saoudite.
Mais posant la question comme ça, je parlais des rafales, est-ce qu'on peut continuer du côté de Washington ou de Paris de faire du commerce avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, tout en sachant que, de manière directe ou pas, ce sont des pays qui financent le terrorisme. En tout cas, c'est ce qui se dit, et il y a parfois même des preuves. Est-ce qu'on peut donner d'un côté et reprendre de l'autre ?
Le problème, c'est qu'on est dans une situation où il faut tenir compte de ce qu'on appelle la réelle politique. Parce que, en même temps, si vous ne faites pas ça, ça signifie que vous ouvrez la porte encore plus ouverte.
Donc, faut continuer de vendre des rafales au Qatar?
On est dans une situation où, étant donné que l'Iran est en train de revenir sur la scène internationale, que l'Iran a des ambitions d'expansion de son influence dans la région, on est obligé d'avoir, en quelque sorte, des alliés ou des remparts. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans une situation où c'est une sale guerre. Tout le monde se retrouve avec les mains sales.
Une dernière question avant de passer à la presse, qui nous ramènera d'ailleurs au Moyen-Orient et à cet avion russe abattu. La Tunisie, qui est un pays que vous connaissez très très bien, Claude Smadja, cet attentat, cette bombe dans un car de la garde présidentielle, et la piste du kamikaze interne à la garde présidentielle est évoquée. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Ça vous paraît plausible?
C'est tout à fait plausible, et on est toujours dans ce même schéma où la Tunisie est le seul pays dans le monde arabe qui semble avoir une chance d'être à la fois un pays musulman et d'être un pays démocratique. Et bien sûr, par rapport à cet objectif, par rapport à cette culture qui fait partie de l'histoire tunisienne, cela fait de ce pays l'ennemi public numéro un des salafistes, parce que pour eux, islam et démocratie, pour ces gens-là, sont deux notions absolument inconciliables.
On va parcourir la presse. Claude Smadja, Esther Coco et Valérie Drou nous ont rejoints. Et les alliances contre le groupe État islamique sont remises en cause par cet Orient compliqué, hein, ce qu'on appelle la complexité du Moyen-Orient.
Oui, c'est dans l'éditorial du Temps ce matin. Un ennemi commun ne pèse pas lourd face à des politiques contradictoires et des alliances contre nature. L'avion russe abattu par la Turquie en est la preuve et offre un aller simple pour le retour à la réalité. Et l'éditorial de Comparer, la guerre contre le groupe État islamique avec l'occupation de l'Irak par les Américains. Elles ont en commun de ne pas voir plus loin que le bout du canon. Écraser Daesh sans avoir d'alternative pour occuper le vide autre que le régime de Damas et sans intégrer les voisins de la Syrie, eh bien c'est une illusion vouée à l'échec.
Voilà, c'est ce que l'histoire devrait retenir de la guerre irakienne des États-Unis en 2003, c'est que ça n'avait pas été préparé, et surtout l'après-Irak. Ne pas recommettre la même erreur pour la Syrie et pour la guerre contre Daesh, comment faire? Pour vous, la transition passe par Bachar al-Assad de toute façon, Claude Smadja?
Pour moi, la transition passe obligatoirement par Bachar al-Assad. C'est une question de séquence des événements. Il faut d'abord liquider l'État islamique, ensuite créer une situation où une transition peut se produire, dans laquelle inévitablement Bachar al-Assad aura un rôle à jouer, et ensuite se trouver dans une situation où on est d'accord avec les Russes, voire même avec l'Iran, pour un remplacement de son régime par quelque chose qui serait à la fois acceptable pour les pays occidentaux, mais aussi pour l'Iran et pour la Russie. Parce que Bachar el-Assad représente un élément stratégique majeur, aussi bien pour l'Iran et pour la Russie, et qu'ils ne vont pas ignorer cet élément stratégique pour les beaux yeux de l'Occident.
Au fond, on va demander à la Russie de négocier avec Damas. Et si la Russie y arrive, on pourra passer par la solution que vous dites.
La Russie et l'Iran ne négocieraient pas, entre guillemets, avec Damas. Une fois qu'on peut se mettre d'accord sur des objectifs et sur les formes que prendrait une transition qui, encore une fois, permettrait, avec des personnes autres que le clan Bachar el-Assad, de maintenir certains intérêts de l'Iran et de la Russie, à ce moment-là, une telle transition et l'éviction de Bachar el-Assad pourrait, je dis bien pourrait, être possible. Mais dans l'état actuel des choses, de dire comme les Américains et les Européens l'ont fait, ah, il faut que Bachar el-Assad s'en aille, c'est purement et simplement enfantin.
En deux mots, remplacé par qui, Bachar el-Assad, dans quelques temps, quelques années, peut-être?
Par une coalition d'opposition qu'il faudrait essayer maintenant.
C'est un peu un scénario à la libyenne, non?
Non, et parce que justement, il faut tenir compte des leçons de la Libye et qu'il faut maintenant graduellement renforcer ces éléments d'opposition pour qu'ils arrivent à créer une force cohérente. D'où la nécessité d'une transition qui ne soit pas le chaos absolu comme c'est le cas en Libye. C'est le moment de tenir les leçons de l'attitude irresponsable que les Européens et les Américains ont eue dans la crise libyenne.
Le débat reste vif en Allemagne, Esther Coco, autour de la migration.
Oui, pas une semaine sans que les politiciens allemands ne s'écharpent sur un aspect de la politique migratoire. La NZZ se fait l'écho de ce débat ce matin. Berlin ne veut pas fermer ses frontières, mais veut ralentir et limiter la migration. C'est cette intention qui se cache derrière le mot magique de contingent de réfugiés. Pour gérer la migration, les Européens aimeraient trouver un accord avec la Turquie aussi vite que possible. Angela Merkel en a aussi urgemment besoin pour calmer les critiques contre sa politique migratoire, toujours plus vive, y compris dans son propre camp.
Alors, certains soupçons se portent sur le fait que parmi le flux des migrants, il y ait eu des terroristes qui se sont infiltrés de cette manière en Europe. Ces attentats vont remettre en question le flux migratoire en Europe aujourd'hui, Claude Smadja?
Absolument, absolument. Ces attentats prouvent une chose, ils viennent à un moment où déjà l'Europe a ras-le-bol de cette invasion des migrants. Madame Merkel s'est conduite de manière totalement irresponsable et dictatoriale en décidant la politique de la porte ouverte de l'Allemagne, parce que la politique de la porte ouverte de l'Allemagne signifie la politique de la porte ouverte de l'Europe. Et donc Madame Merkel a imposé une politique à tous ses partenaires européens. Aujourd'hui, elle commence à en payer le prix et on se rend compte de la folie de cette politique.
Faut fermer le robinet, si je puis dire?
C'est le moment de fermer le robinet. Car la situation est très simple, sur le plan économique, sur le plan social, on a atteint une situation qui devient absolument ingouvernable et intenable. À cela, vous ajoutez l'élément terroriste qui s'est produit le 13 novembre à Paris. Nous avons 4 cas avérés de terroristes qui se sont infiltrés en se faisant passer pour des migrants. C'est une question purement statistique. Vous avez 4 cas jusqu'à présent qui se sont déclarés. Combien ne sont pas déclarés? C'est une menace que l'Europe ne peut pas se permettre de continuer à avoir. C'est le moment de récupérer le contrôle des frontières européennes. La crise des migrants est la crise la plus grave que l'Europe connaît depuis 1945. C'est le moment d'avoir une attitude réaliste et de cesser le faux humanitarisme qui a caractérisé la politique européenne face aux migrants.
Alors Claude Smadja, c'est votre position très tranchée, on ne va pas en débattre maintenant, d'autant qu'on n'a pas le temps, mais enfin, vos propos sont très clairs. Autre point fort de la presse, on commence avec vous Valérie.
Oui, à quelques jours de la COP21, la grande conférence de Paris sur le climat, Le Courrier met en évidence deux défis étroitement liés, malnutrition et climat. Saletons pour en finir avec la faim, titre de l'article. De nombreuses organisations humanitaires appellent à inclure la sécurité alimentaire dans l'accord de Paris. Chiffre à l'appui, 70% des cultures seront affectées par le changement climatique. Avec le niveau actuel d'émissions de CO2, 600 millions de personnes supplémentaires souffriront de la faim en 2080. La faim qui tue déjà 25 000 hommes, femmes et enfants chaque jour.
Presque chaque fait et geste de la vie quotidienne est réglementé en Suisse. Chaque année, la Confédération et les cantons produisent de nouvelles lois. L'Université de Zurich a donc analysé la fièvre législative des cantons entre 2004 et 2013. Conclusion, les Romands et les Tessinois légifèrent plus que les Alémaniques. 312 changements de loi à Genève durant cette période, contre 32 à Appenzell-Rhodes extérieur. Le record absolu, c'est Neuchâtel qui le détient avec 1118 2018, nouveau règlement.
On en parlait hier, c'était dans l'Impartial. Les finances de la ville de La Chaux-de-Fonds plombées par un prêt indexé sur le taux de change de l'euro. Eh bien, la GFI revient dans son éditorial ce matin. Tant d'inconscience à La Chaux-de-Fonds, se pose la question de l'expertise des administrations dans le domaine financier. L'exécutif de La Chaux-de-Fonds se juge compétent, mais quand même, qu'un pari sur l'évolution future d'un taux de change ne soit pas compris comme un acte spéculatif, en dit long, dit la GFI, en dit long sur la culture financière des responsables politiques.
Les Suisses ne se laissent pas gâcher leur goût du voyage. Juste après les attentats de Paris, on a bien remarqué que la moitié des clients de Kuoni ont annulé leur voyage. Un quart a fait de même à Hôtel Plan. Mais depuis, le Blick a fait le point auprès des agences. Hôtel Plan enregistre de nouveau des réservations pour la capitale française et le shopping de Noël dans les grandes villes reste une tendance, même si les Suisses privilégient d'autres destinations. Vienne, Berlin et Londres sont en tête, juste avant Prague, Amsterdam et Hambourg.
Merci mesdames et merci à vous Claude Smadja.
Merci beaucoup.
D'avoir été notre invité ce matin, expert en relations internationales, président du cabinet Smadja et Smadja.